Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Notre émission se délocalise aujourd'hui pour poser ses micros à Paris, et je tiens d'abord à remercier les équipes de Radio Campus Paris ainsi que Philippe Fischer qui nous prête chaleureusement ce studio pour réaliser aujourd'hui cette émission. Connaissez-vous vraiment une des grandes histoires du Far West? C'est une des questions qui pourrait se poser à la lecture aujourd'hui, parce que sort aujourd'hui même en librairie une nouvelle bande dessinée qui va nous ramener en des temps anciens dans un Far West qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai le grand plaisir de vous proposer aujourd'hui une table ronde avec les auteurs de cette bande dessinée. Hockey Coral, publiée donc aujourd'hui aux éditions Glénat et Fayard dans la collection La véritable histoire du Far West. Premier invité autour de cette table et première fois que je le reçois au micro de la librairie des étudiants, c'est pour moi un vrai plaisir. Grand scénariste pour la bande dessinée, sur de très nombreux projets, vous en avez certainement lu un, c'est sûr, que ce soit Sillage, Magnum Génération, Adieu Birkenau, peut-être même les trois tomes de Madeleine Résistante ou encore Missak Méliné et le groupe Manouchian. Il en est le scénariste et il est avec nous aujourd'hui dans ce studio. Jean-David Morvan, bonjour.
Bonjour. Alors, je suis vraiment un grand scénariste de 1m82, très exactement.
Donc, dans la précision jusqu'au bout.
Oui, c'est ça.
Notre deuxième invité va devenir, je crois, un fidèle à notre émission. Il y a un peu plus d'un an, j'avais eu le plaisir de le recevoir à ce micro pour son premier ouvrage, et déjà scénarisé donc par Jean-David Morvan. Nous étions dans ces mêmes studios pour évoquer ce grand roman graphique qui retraçait la vie de Missak Manouchian. Aujourd'hui, il co-signe Hockey Coral, et nous allons donc aussi en parler avec lui. Thomas Tcharkazian, bonjour.
Bonjour Thomas.
Merci d'être nouveau à ce micro.
Ravi de revenir.
Et merci à tous les deux d'être là aujourd'hui.
On est vraiment tous hyper polis, c'est vraiment très
mais très c'est d'accord. Bien, il faut se dire bonjour, la politesse c'est le plus important. À promis, on peut dire ce qu'on veut, mais la politesse toujours. C'est donc l'histoire d'une fusillade, de la marque de la loi face à ceux qui veulent la défier, par envie de toute puissance. Le 26 octobre 1881, Wyatt, Doc, Morgan et Virgil, les frères Earp, s'apprêtent à interpeller le gang Clanton McClory, des cow-boys réputés pour leur série d'assassinats et autres vols. Mais cette fois-ci, les frères Earp peuvent leur mettre la main dessus pour port d'armes illégales aux limites de la ville. Devant une marque d'autorité, les cow-boys sortent leurs pistolets et tirent. La fusillade d'Hockey Coral vient de se produire, trois cow-boys ne se relèveront pas. Les représailles, qui sont monnaie courante à cette époque, ne vont pas tarder. Et pour venger les siens, Wyatt Earp décide de partir traquer ses hommes pour se venger et même laver son honneur. Qu'est-ce qui vous a motivé, tous les deux, à scénariser cette histoire et même à la dessiner?
C'est mon éditeur, Cédric Hillan, chez Glénat, qui m'a proposé de travailler dans cette collection western et donc de faire Hockey Coral. Donc Hockey Coral est assez connu, il y a eu beaucoup de westerns qui racontent l'histoire de Hockey Coral, mais j'avais pas bien compris dans les westerns, et en me jetant dans la documentation pour l'écrire, je me suis rendu compte que c'était très compliqué comme histoire, parce que ça dure 30 secondes, et tout le folklore du Far West tourne autour de cette fusillade de 30 secondes, qui est très complexe, mais je pense que la base c'est que c'est les cow-boys, c'est l'ancien Far West. Wyatt Earp, qui est un salopard comme les autres, il n'est pas tellement différent des autres, mais lui, il est Marshall, donc il représente l'État, et c'est le moment où l'État américain a pris le contrôle sur les territoires libres des anciens colons, et en fait, c'est pour ça que c'est devenu un héros, alors que lui-même, il avait des femmes dans des bordels et tout ça, c'était pas vraiment un mec très très pur, et c'est intéressant justement comment cette histoire raconte la construction des États-Unis, voilà. Et c'est ça qui m'a donné envie de le faire.
Et vous, Thomas, qu'est-ce qui vous a motivé donc, à être, je pense, appelé par JD pour vous dire « on y va ».
C'était un projet qui était un peu en suspens depuis plusieurs années, et JD m'envoie un message à la fin de Manouchian en me disant « écoute, il y a ce western Hockey Coral là, qui est un peu abandonné, ce serait trop bien de pouvoir l'éditer chez Glénat ». Donc moi j'avais jamais fait de western, hein. C'était quand même un genre qui est ultra vu dans le cinéma, dans la bande dessinée, et je pense que c'est toujours un honneur de se dire ok, je vais pouvoir faire mon western, du moins pouvoir en dessiner un, même si c'est peut-être pas le dernier, hein. Peut-être que je serais amené à en faire d'autres, mais il y a toujours un peu cette excitation, et donc je l'ai repris avec plaisir avec Citron qui est avec moi et Bruno qui est aux couleurs. Donc on a été pareil, une petite équipe à bosser comme sur Manouchian, et c'est toujours fun, je pense. On a été tous les trois, depuis qu'on est petit, bercés par l'imagerie des cow-boys de l'Ouest américain. Donc c'est toujours fun à dessiner, les cow-boys, les... surtout que c'est une vraie histoire de western, une vraie fusillade, tout ça. Donc très fun à dessiner. Ouais.
Donc justement, vous évoquez les cinémas, ouais, les souvenirs d'enfance. Qu'est-ce que ça vous évoque même avant tout ça, le Far West? Avant même cette imprégnation de la culture qu'on a pu avoir avec les films?
Bah avant, j'étais pas né, moi, hein, parce que les westerns, ils ont commencé en 1920, à peu près. Donc j'ai l'air vieux comme ça, mais il faut pas exagérer quand même. Le western, c'est, pour moi, c'est, Thomas était pas né, mais, ou très peu, mais c'est les films de présentés par Eddie Mitchell le mardi soir.
La dernière séance. Bien,
la dernière séance, voilà, c'est tout ça. Donc, c'est plein de... et puis aussi, en même temps... les western spaghetti de Sergio Leone, et voilà, donc c'est une sorte de mélange intéressant, et c'est intéressant aussi de replonger dans la vérité du western, parce que c'est assez documenté en fait comme bouquin. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus enlevé, un peu plus foufou quoi, mais il y a tellement d'informations à donner qu'il est assez dense, hein, comme livre. Donc, mais j'espère qu'il est juste, donc voilà.
Au niveau des westerns, des films dont vous avez parlé, il y a le premier Hockey Corral qui a été porté aussi,
ouais,
à l'écran en 46 avec Burt Lancaster et Kirk Douglas de John Sturge. Comment ce western-là, mais tant d'autres, vous ont peut-être aussi inspiré pour scénariser cette bande dessinée et la dessiner?
Moi, je ne me suis pas inspiré tellement de ça. Je les ai vus tous, mais c'est un peu compliqué parce qu'ils ont pris beaucoup de liberté avec la vérité. Comme tous les gens qui ont écrit des livres sur l'époque et tout, surtout à cette époque-là, ont pris des libertés avec la vérité, comme sans doute Wyatt Earp, en racontant l'histoire, prenait des libertés avec la vérité aussi. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de replonger dans une sorte de réalité historique. Donc on a un historien qui travaille avec nous, qui s'appelle Farid Hammer, qui est d'ailleurs le seul à avoir sa biographie dans l'album. Nous, on ne l'a pas, mais lui, il a une biographie. Et donc, il est assez vigilant à ça, quoi. Donc on a essayé vraiment de faire un truc le plus juste possible historiquement, sachant que c'est vraiment compliqué quoi. Si j'avais dû mettre tous les détails de l'histoire, c'était vraiment vraiment complexe, mais c'était amusant d'essayer de rendre l'histoire à peu près crédible en enlevant quand même des parties, parce que c'est vraiment beaucoup de discussions. Leur haine entre eux, elle vient depuis très longtemps, c'est complexe, c'est des mecs qui n'aiment pas les cow-boys, mais qui en sont quand même... Enfin bon, bref, c'est assez compliqué, mais c'était chouette.
Il y a un dossier historique, justement, qui revient.
Exactement.
À la fin sur ce moment-là. Ouais. Est-ce qu'aussi, il y avait cette volonté de respecter, justement, la vérité historique, même si on comprend bien que vous avez dû choisir les éléments?
Bah, autant qu'on puisse la connaître, on a essayé de la rendre, effectivement. Après, il y a des personnages de l'Ouest comme Billy the Kid, on sait quasi rien sur lui. Le seul livre qui a été écrit sur lui a été écrit par le mec qui l'a tué, donc c'est un peu
compliqué. Et puis
compliqué.
Il nous reste sa tombe aujourd'hui.
Voilà, c'est ça, il reste pas grand chose de Billy the Kid, mais là c'est assez bien documenté, les frères Earp quand même, on sait beaucoup de choses, peut-être un peu trop, et c'est pour ça que c'est compliqué à écrire. Et donc voilà, mais c'était bien. J'aurais eu un peu moins d'informations, j'aurais mis un peu plus de poursuites et tout ça, mais là vraiment c'est un bouquin qui zappe en permanence d'une scène à l'autre. Ouais.
Donc vous vous êtes censuré dans le scénario?
Oh non, pas du tout, mais il fallait que je trouve comment faire rentrer tout ça dans 46 pages, parce que c'est des albums de 46 pages, donc c'est un exercice intéressant, mais un peu compliqué. Ouais.
Après le scénario vient forcément le dessin. Vous avez supervisé ce qu'il a fait, Thomas?
Bah en fait, tout d'abord, j'ai reçu le storyboard de Rémy Acuté. Ouais. Qui est un dessinateur philippin qui a été... Moi, j'ai un atelier à Reims avec des copains. Et donc, Ray, il était venu travailler chez nous pendant 2 ans. Après, il est retourné aux Philippines. Et on lui avait demandé de faire le storyboard de cette BD. Et donc, on n'avait plus de nouvelles. Donc, on s'était dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et d'un coup, il nous a envoyé toutes les pages du storyboard. Tout l'album fini. Au bout d'un an, on avait eu 0 mail de lui, ni rien. Et un matin, on se réveille avec notre éditeur. On avait le storyboard dans notre boîte mail. Donc, c'était un peu surprenant. Et je trouvais ça tellement beau, le storyboard. Je me suis dit... il faut qu'on trouve quelqu'un de balèze pour l'ancrer. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Thomas. En attendant de préparer notre prochain projet, là, qu'on vient de commencer, mais il me fallait un peu de temps, moi, pour y réfléchir et trouver de la doc. Et à Citron, qui est aussi dessinateur et qui a ancré les décors. Voilà.
Comment ça s'est passé, alors, au niveau du dessin, entre Citron et vous, Thomas? Vous êtes dit, vous faites telle partie, moi, telle partie?
On a convenu un peu comme sur le Manouchian de partir sur le même principe de j'ancre les personnages et il ancre les décors. Ça avait très bien fonctionné sur l'album précédent, donc on est parti vraiment sur le même format. Tu disais, JD, juste avant, qu'il y avait beaucoup de formats qui ont été faits, d'œuvres qui ont été faites autour d'Hockey Corral. Donc pareil pour la documentation visuelle, j'ai eu plein de trucs très différents. Donc c'est vrai que j'ai essayé de m'en écarter le plus possible, parce que si je me fiais au film Wyatt ou au film Kekoral ou tel film ou telle bande dessinée, je pouvais arriver en fait à avoir des docs qui pouvaient être très très larges et très différentes. Et parfois ça peut être un vrai piège quand on fait de la BD, d'avoir trop de docs différentes. Donc on s'est vraiment fié uniquement en fait aux images d'archives qu'on avait et à ce que nous disait Farid sur les retours, pour être le plus précis en fait historiquement et éviter d'avoir des faux raccords ou de raconter n'importe quoi ou de dessiner n'importe quoi. Donc c'est comme ça qu'on s'est organisé avec Citron. Et puis après on a eu Bruno aussi à la couleur, qui a été vachement bon. C'était son premier album en couleur, je crois, en entier, donc il a fait le travail. Et pareil, on a essayé d'accompagner pour être juste historiquement dans les couleurs des costumes, des décors, etc. quoi.
J'ai essayé de retrouver la page très rapidement, mais je crois que c'est juste au début, justement, au début de cette fusillade, il y a cette envolée de rouge. Est-ce que ça, c'est aussi une volonté du scénariste ou du dessinateur de dire là, pour accentuer l'action, pour marquer un élément, parce qu'il y a aussi d'autres passages, évidemment, on est page 7, donc on est vraiment au début, je ne divulgâche rien. Est-ce que c'était aussi dans la construction de dire il faut marquer visuellement le lecteur ?
Exactement, je pense que la couleur est très narrative en fait en bande dessinée. Donc en fait, la couleur, elle sert à raconter quelque chose. Et on s'est dit avec Bruno, quand il a fait la couleur de la couverture, il avait fait une couve toute rouge, mais il se trouve que ça se passe à 14h, la fusillade. Donc l'ambiance n'était pas tellement au rouge, là ça fait plutôt fin de journée, mais il y a le côté violent qui fonctionne bien. Et donc on s'est dit ce qui serait bien dans cette première scène, qui est la scène de la fusillade, on commence directement par ça, comme ça on ne s'emmerde pas. Mais en fait, c'est de retrouver ces couleurs-là. Et donc on a sur chaque strip, donc sur chaque bande de chaque page, on a augmenté la densité de rouge de 5% jusqu'à arriver à la dernière case qui est dans la même ambiance de la couverture, histoire de montrer un peu la violence du moment. C'est ça qui est intéressant.
La brutalité. Et alors justement, cette fameuse case qui est rouge comme la couverture, la case d'après, on est complètement surpris.
Ouais, on a bougé.
On a bougé, mais alors pas que d'un lieu, on a bougé aussi d'une temporalité, quelques 40 ans nous séparent. C'est ce que j'aime aussi dans cette bande dessinée, c'est que vous convoquez l'imaginaire du lecteur, qui d'un coup, certes, a cet imaginaire qui est entre guillemets imposé par le dessin, mais aussi parce que lui peut se représenter en plus. Un imaginaire presque d'enfant, parce que les enfants aiment aussi le western, si je ne dis pas de bêtises, vous avez le droit de me contredire.
Non, ça dépend des enfants, j'imagine, mais en général, oui.
Je me souviens que quand je regardais des westerns petits, parce que mon grand-père regardait beaucoup de westerns, et je les regardais avec lui, je trouvais ça, mais chiant à mourir, c'était très long, beaucoup de dialogues, et je comprenais rien, exactement, et j'avais besoin d'action quand j'étais petit, et franchement, je trouvais les westerns très chiants par rapport à ce qu'on avait pu me raconter, ou l'image que j'en avais en tête, du moins.
Et depuis, vous êtes réconcilié avec les westerns.
Bien sûr, ouais.
Ça va. Donc, en plus de cet imaginaire, il y a donc cette fameuse case nouvelle temporalité, nouveau lieu, celle des studios de la 20th Century Fox, 40 ans plus tard. Là, je vais m'adresser à vous deux. Est-ce que vous n'avez pas, finalement, vous aussi, produit un film avec cet ouvrage-là ?
Bah, disons que si c'est un film, on sera obligé d'aller lire la bande dessinée au cinéma. Non, c'est vraiment une BD, mais ce qui était intéressant, c'est vraiment ce rapport à la mythologie du western. Moi, c'est ça qui m'intéressait, et c'est pour ça que j'ai eu envie de le faire, mais qui sont des scènes vraies, où Wyatt Earp, à la fin de sa vie, a essayé de faire un film avec son histoire dans les studios de cinéma qui commençaient. Donc là, c'est avec John Ford, si je me souviens bien.
Oui.
Et donc, il a essayé d'aller vendre ça un peu partout. Et c'est comme ça qu'ils ont créé cette espèce de mythologie. Donc de son vivant, ils n'ont pas fait de film. Le film a été fait après. Mais c'est comme ça qu'il a implanté un peu cette envie de faire du western un peu épique dans la tête des producteurs d'Hollywood, parce qu'il est allé vivre à Los Angeles. Donc c'est ça qui était rigolo. Et donc là, il va rencontrer un jeune homme qui travaille dans les studios, qui est un jeune mec qui trimballe du matériel et qui est pas très capé encore, et qui sera John Wayne plus tard. Donc c'est pas son vrai nom, il s'appelle Marion, je sais plus comment. Et ça, c'est la première rencontre, mais à ce moment-là, il est caché derrière, et après il va le recontacter. Donc il va raconter toute son histoire à John Wayne, voilà, quand il était jeune.
J'avais son nom et
Marion quelque chose.
Oui, c'est Marion Mitchell Morrison, si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être ça. Donc on a parlé de John Wayne, on a aussi Cécile B 2000, auquel il y a une petite référence à un moment donné. On se souvient de ce film western La fille du Far West en 1915. Qu'est-ce qu'elle représente ? Bon, évidemment, j'espère. J'étais tous dans tous les cas, c'était dans la salle le jour même. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous deux, cette génération de cinéastes qui s'empare aussi de cette période qui est en train de s'éteindre, mais qui en même temps va survivre par le cinéma.
Bah en fait, ce qui est génial, c'est qu'elle est totalement... En fait, le western, c'est fini au début du XXe siècle, peut-être on va dire à la fin du XIXe, tout début. Et il y a déjà des premiers westerns des 1915, donc c'est presque contemporain, en fait, des réalisateurs américains de cette époque-là. Donc c'est intéressant aussi de voir ces westerns-là pour ça, mais ils sont déjà magnifiés, c'est-à-dire il y a déjà en germe tout ce qui était de tout ce qui est de la nouvelle période des États-Unis. C'est parce que c'est la fin de la frontière, ils ont conquis tout le pays, ils ont amené la loi partout dans les territoires, ils ont récupéré les territoires mexicains... qu'ils ont volé aux Mexicains, hein. Il y avait beaucoup de Mexicains, voilà. Et donc, les États-Unis se construisent autour du cinéma, d'une certaine manière, et donc ils créent leur légende. Et c'est un truc qui commence tout de suite, dès la fin du western. Donc c'était assez passionnant à regarder, à lire. J'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, c'est assez passionnant, ouais.
J'ai l'impression que c'est un peu le cas. Enfin, Hollywood s'est beaucoup accaparé certains conflits ou certaines nouveautés par rapport aux États-Unis pour les magnifier dans le cinéma et leur donner l'image qu'ils avaient envie de leur donner. Mais c'est pas vrai que pour les westerns, c'est vrai pour n'importe quel genre, sur la guerre du Vietnam ou sur n'importe quel autre conflit. Donc c'est peut-être un des tout premiers exemples, comme c'était le début d'Hollywood, un des tout premiers exemples justement du rôle que pouvaient avoir les studios de cinéma à cette époque-là, quoi.
Donc vous convoquez l'imaginaire, on l'a dit, mais aussi d'autres valeurs, d'autres sentiments qui traversent toutes ces pages. Le courage, la loyauté, quand on porte l'insigne sur son veston, c'est tout très important, comme vous l'avez dit, c'est l'arrivée de l'État jusqu'aux confins, jusqu'à la côte ouest. Mais on a aussi le terreau brûlant d'une liberté qui est très agressive, qui se règle à coups de pistolet, complètement. La circulation d'armes, le trafic d'animaux, la corruption. À la fin, je me suis quand même dit, est-ce qu'on a vraiment changé par rapport à cette époque ?
Bah déjà, quand on n'est pas content d'une question à la radio, on ne tire pas une balle dans la gueule, donc c'est déjà pas mal, on a un peu changé.
Merci pour moi.
C'est un peu mieux, mais les questions sont bien, tu les méritais pas, mais quand même. Mais c'est quand même quelque chose de pas mal. Je pense qu'aussi que si OK Corral a été tellement connu et reconnu, c'est que sans doute il n'y a pas eu tant de mecs qui se sont tirés dessus comme ça dans les rues qu'on les voit dans les westerns, en fait. Je pense que c'était quelque chose quand même de beaucoup plus rare et que sans doute cette espèce d'événement, cette fusillade est devenue un événement dans tous les États-Unis, quoi. Et c'est sans doute pas pour rien, parce que c'était un peu exceptionnel. Ce qui se diffuse le plus, ce dont on parle le plus, c'est toujours des trucs un peu exceptionnels, voilà. Mais surtout, je pense vraiment que c'est marquant du changement d'atmosphère de l'Amérique de cette époque, ouais.
On va dire que les États-Unis étaient une nation récente par rapport à cette conquête de l'Ouest, et que la violence est petit à petit plus institutionnalisée, je pense, davantage que par des règlements de compte à l'arme à feu. Mais je pense qu'elle est toujours très présente, d'une autre manière, mais toujours très présente. Et les armes à feu, c'est un peu la mauvaise image qu'on a des États-Unis ici en Europe, c'est vraiment le pays des armes à feu, mais je pense que c'est pas du tout ce qui est le plus violent dans ce genre de pays aujourd'hui.
Et ce qui est bien justement avec l'appui de l'historien de ce dossier qui est à la fin de la bande dessinée, c'est aussi qu'on apprend beaucoup de choses. Déjà au long de votre bande dessinée, parce que moi j'ai appris des trucs sur OK Corral que je ne savais pas.
Moi j'ai appris plein de trucs
tout appris.
Ouais. Alors, je pense que le plus surprenant, on va rien divulgâcher, c'est qu'en fait c'est vraiment dans une ruelle.
Okay, c'est Corral, dans un choral, c'est tout petit en fait, voilà. C'est un tout petit endroit. Ouais.
Tout le monde pourrait croire que c'est au milieu de la ville, mais pas du tout.
Oui, c'est un petit peu en banlieue de la ville, mais c'est des petites villes en plus. Là c'est Tombstone, donc c'est vraiment une toute petite ville, ouais. c'est pas grand.
Comme ça au moins on peut savoir à la fin de cette bande dessinée d'où vient cette fameuse expression « règlement de compte » à OK Corral.
Exactement. Ben, je connaissais que l'expression, voilà. Moi, l'histoire derrière.
Qu'on emploie encore aujourd'hui. Ouais. C'est donc une histoire de vengeance, de la loi du sang, vous l'évoquez, plus ou moins comme le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre d'histoire-là ? Outre le fait très historique, est-ce qu'il y a ce sentiment de vengeance, se réapproprier un imaginaire qui a pu être déformé par le cinéma ?
Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'à la fin, c'est des salauds qui tirent sur des salauds, quoi. Mais qu'il y a une partie des salauds qui sont restés des salauds dans l'histoire, et une autre partie des salauds qui sont devenus des héros. Et en fait, comment ces gars-là sont devenus des héros m'intéresse presque autant que comment les autres sont restés des salauds. Cette histoire-là est vraiment intéressante pour ça, quoi. C'est de la mythologie. On avait fait dans une collection de Cédric Hillon aussi, qui est notre éditeur, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais fait une BD sur Mao Zedong avec Raphaël Ortiz. Et Mao, c'est pareil, quoi. C'est vraiment comment on rend des événements réels, comment on en fait une mythologie, quoi, qui va carrément imprégner la Chine entière pendant des décennies, alors qu'on sait très bien que ces choses ne sont pas vraies, en fait. et comment ça s'est diffusé comme ça m'intéresse toujours, quoi. Et après, on peut revenir sans doute à la base des religions, comment des choses qui se sont passées ont été déformées pour devenir à la fin des religions, alors que ça n'avait rien de miracle à l'époque. Donc c'est un sujet qui me plaît tout le temps.
Et je trouve ça peut-être pas anodin qu'il ait tant voulu l'adapter au cinéma à la fin de sa vie. C'est peut-être qu'il y avait aussi cette volonté derrière de donner les vainqueurs écrivent l'histoire. Donc il avait besoin, de transporter son vécu à lui d'une certaine manière dans le cinéma et que les gens se remémorent de son nom de cette manière-là. Donc il a tout gagné, hein, que les films soient sortis, des films à son nom, que ce soit devenu un truc aussi important. Alors que, comme tu disais, on se rend bien compte quand on lit la BD qu'en fait c'était tous des salauds, il y en avait qui avaient des insignes, il y en a qui en avaient pas, quoi, c'est tout.
Ok Coral, la nouvelle bande dessinée tout juste publiée aujourd'hui aux éditions Glénat et Fayard est à retrouver en librairie indépendante. Merci Jean-David Morvan.
Merci à vous, c'était vraiment très sympa.
Merci Thomas Cherkezian.
Merci Thomas.
J'étais très heureux de vous recevoir tous les deux à ce micro, d'avoir pu vous réunir pour qu'on puisse parler de cette bande dessinée qu'il va falloir lire, découvrir.
Et payer surtout, hein, n'hésitez
pas à payer. C'est le plus important, il faut toujours la payer. Ayez un TPE sur vous, c'est le plus important. Merci aussi à Lola Dépuisée, attachée de presse aux éditions Glénat, pour avoir rendu cet entretien possible. Elle est dans ce studio. Merci encore à vous. Amis auditeurs, auditrices, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Même jour, même heure et même antenne pour un entretien, cette fois-ci avec Claire Berest. Vous retrouverez bien sûr l'intégralité de notre entretien du jour sous forme de capsule auditive en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, de ne pas régler vos comptes comme au Hockey Choral et surtout, le plus important, d'avoir de belles lectures.